Chapitre 3. Jeanne est trahie et livrée. Telle fut la vertu du sacre et son effet tout-puissant dans la France du Nord, que dès lors l'expédition sembla n'être qu'une paisible prise de possession, un triomphe, une continuation de la fête de Reims. Les routes s'aplanissaient devant le roi, les villes ouvraient leurs portes et baissaient leurs ponts-levis. C'était comme un royal pèlerinage de la cathédrale de Reims à Saint-Médard-de-Soissons, à Notre-Dame-de-Lan. S'arrêtant quelques jours dans chaque ville, chevauchant à son plaisir, il entra dans Château-Thierry, dans Provins, d'où, bien refait reposer, il reprit vers la Picardie sa promenade triomphale. Y avait-il encore des Anglais en France? On eût pu vraiment en douter. Depuis l'affaire de Patay, on n'entendait plus parler de Bedford. Ce n'était pas que l'activité ou le courage lui manquât, mais il avait usé ses dernières ressources. On peut juger de sa détresse par un seul fait qui en dit beaucoup, c'est qu'il ne pouvait plus payer son parlement et que cette cour cessa tout service, que l'entrée même du jeune roi Henri ne put être, selon l'usage, écrite avec quelques détails sur les registres, parce que le parchemin manquait. Dans une telle situation, Bedford n'avait pas le choix des moyens. Il fallut qu'il se remît à l'homme qu'il aima le moins, à son oncle, le riche et tout-puissant cardinal de Winchester. Mais celui-ci, non moins avare qu'ambitieux, se faisait marchander et spéculait sur le retard. Le traité ne fut conclu que le 1er juillet, le surlendemain de la défaite de Patay. Charles VII entrait à Troyes, à Reims, Paris était en alarme, et Winchester était encore en Angleterre. Bedford, pour assurer Paris, appela le duc de Bourgogne. Il vint en effet, mais presque seul. Tout le parti qu'en tira le régent, ce fut de le faire figurer dans une assemblée de notables, de le faire parler et répéter encore la lamentable histoire de la mort de son père. Cela fait, il s'en alla, laissant pour tout secours à Bedford quelques hommes d'armes picards. Encore fallut-il qu'en retour, on lui engagea la ville de Meaux. Il n'y avait d'espoir qu'en Winchester. Ce prêtre régnait en Angleterre. Son neveu, le protecteur Gloucester, chef du parti de la noblesse, s'était perdu à force d'imprudence et de folie. D'année en année, son influence avait diminué dans le conseil. Winchester y dominait et réduisait à rien le protecteur, jusqu'à renier le salaire du protectorat d'année en année. Et c'était le tuer dans un pays où chaque homme est coté strictement au taux de son traitement. Winchester, au contraire, était le plus riche des princes anglais et l'un des grands bénéficiaires du monde. La puissance suivit l'argent comme il arrive. Le cardinal et les riches évêques de Canterbury, d'York, de Londres, d'Ely, de Bath constituaient le conseil. S'ils y laissaient siéger des laïcs, c'était à condition qui ne dirait mot, et aux séances importantes, on ne les appelait même pas. Le gouvernement anglais, comme on pouvait le prévoir dès l'avènement des Lancaster, était devenu tout épiscopal. Il y paraît aux actes de ce temps. En 1429, le chancelier ouvre le Parlement par une sortie terrible contre l'hérésie. Pour porter au plus haut point la puissance du cardinal, il fallait que Bedford fût aussi bas en France que l'était Gloucester en Angleterre, qu'il en fût réduit à appeler Winchester et que celui-ci, à la tête d'une armée, vint faire sacrer le jeune Henri VI. Cette armée, Winchester l'avait toute prête. Chargée par le pape d'une croisade contre les suicides de Bohême, il avait, sous ce prétexte, engagé quelques milliers d'hommes. Le pape lui avait donné l'argent des indulgences pour les mener en Bohême. Le conseil d'Angleterre lui donna encore plus d'argent pour les retenir en France. Le cardinal, au grand étonnement des croisés, se trouva les avoir vendus. Il en fut deux fois payé, payé pour une armée qui lui servait à se faire roi. Avec cette armée, Winchester devait s'assurer de Paris, y mener le petit Henri, lit sacré. Mais ce sacre n'assurait la puissance du cardinal qu'autant qu'il réussirait à décrier le sacre de Charles VII, à déshonorer ses victoires, à le perdre dans l'esprit du peuple. Et contre Charles VII en France, contre Gloucester en Angleterre, il employa, comme on verra, un même moyen, fort efficace alors, un procès de sorcellerie. Ce fut seulement le 25 juillet, lorsque depuis 9 jours Charles VII était bien et dûment sacré, que le cardinal entra avec son armée à Paris. Bedford ne perdit pas un moment. Il partit avec ses troupes pour observer Charles VII. Deux fois ils furent en présence et il y eut quelques escarmouches. Bedford craignait pour la Normandie. Il la couvrit et pendant ce temps, le roi marcha sur Paris, en août. Ce n'était pas l'avis de la Pucelle. Ses voix lui disaient de ne pas aller plus avant que Saint-Denis. La ville des sépultures royales était, comme celle du sacre, une ville sainte. Au-delà, elle pressentait quelque chose sur quoi elle n'avait plus d'action. Charles VII eût dû penser de même. Cette inspiration de sainte guerrière, cette poésie de croisade qui avait ému les campagnes, n'y avait-il pas danger à la mettre en face de la ville raisonneuse et prosaïque du peuple moqueur des scolastiques et des cabochiens? L'entreprise était imprudente. Une telle ville ne s'emporte pas par un coup de main. On ne la prend que par les vivres. Or, les Anglais étaient maîtres de la Seine par en haut et par en bas. Ils étaient en force et soutenus par bon nombre d'habitants qui s'étaient compromis pour eux. On faisait d'ailleurs courir le bruit que les Armagnacs venaient détruire, raser la ville. Les Français emportèrent néanmoins un boulevard. La Pucelle descendit dans le premier fossé. Elle franchit le dos d'âne qui séparait ce fossé du second. Là, elle s'aperçut que ce dernier, qui saignait les murs, était rempli d'eau. Sans s'inquiéter d'une grêle de traits qui tombait autour d'elle, elle cria qu'on apportât des fascines, et cependant de sa lance, elle sondait la profondeur de l'eau. Elle était là, presque seule, en butte à tous les traits. Il en vint un qui lui traversa la cuisse. Elle essaya de résister à la douleur et resta pour encourager les troupes à donner l'assaut. Enfin, perdant beaucoup de sang, elle se retira à l'abri dans le premier fossé. Jusqu'à 10 ou 11 heures du soir, on ne put la décider à revenir. Elle paraissait sentir que cet échec solennel, sous les murs même de Paris, devait la perdre sans ressources. 1 500 hommes avaient été blessés dans cette attaque qu'on l'accusait à tort d'avoir conseillée. Elle revint maudite des siens comme des ennemis. Elle ne s'était pas fait scrupule de donner l'assaut le jour de la nativité de Notre-Dame, 8 septembre. La pieuse ville de Paris en avait été fort scandalisée. La cour de Charles VII l'était encore plus. Les libertins, les politiques, les dévots aveugles de la lettre, ennemis jurés de l'esprit, tous se déclarent bravement contre l'esprit le jour où il semble faiblir. L'archevêque de Reims, chancelier de France, qui n'avait jamais été bien pour la Pucelle, obtint contre son avis que l'on négocierait. Il vint à Saint-Denis demander une trêve. Peut-être espérait-il en secret gagner le duc de Bourgogne, alors à Paris. Mal voulu, mal soutenu, la Pucelle fit pendant l'hiver les sièges de Saint-Pierre de Moustier et de la Charité. Au premier, Presque abandonnée, elle donna pourtant l'assaut et emporta la ville. Le siège de la charité traîna, languit, et une terreur panique dispersait les assiégeants. Cependant, les Anglais en avaient décidé. Le duc de Bourgogne à les aider sérieusement. Plus il les voyait faibles, plus élevait l'espoir de garder les places qu'il pourrait prendre en Picardie. Les Anglais, qui venaient de perdre Louviers, se mettaient à sa discrétion. Ce prince, le plus riche de la chrétienté, n'hésitait plus à mettre de l'argent et des hommes dans une guerre dont il espérait avoir le profit. Pour quelque argent, il gagna le gouverneur de Soissons. Puis il assiégea Compiègne, dont le gouverneur était aussi un homme fort suspect. Mais les habitants étaient trop compromis dans la cause de Charles VII pour laisser livrer leur ville. La Pucelle vint s'y jeter. Le jour même, elle fit une sortie et faillit surprendre les assiégeants. Mais ils furent remis en un moment et poussèrent vivement les assiégés jusqu'au boulevard, jusqu'au pont. La Pucelle, restée en arrière pour couvrir la retraite, ne put rentrer à temps, soit que la foule obstrua le pont, soit qu'on eût déjà fermé la barrière. Son costume la désignait. Elle fut bientôt entourée, saisie, tirée à bas de cheval. Celui qui l'avait prise, un archer picard, selon d'autres le bâtard de Vendôme, la vendit à Jean de Luxembourg. Tous, Anglais, Bourguignons, virent avec étonnement que cet objet de terreur, ce monstre, ce diable, n'était après tout qu'une fille de 18 ans. Qu'il en dût advenir ainsi, elle le savait d'avance. Cette chose cruelle était infaillible, disons-le, nécessaire. Il fallait qu'elle souffrît. Si elle n'eût pas eu l'épreuve et la purification suprême, il serait resté sur cette sainte figure des ombres douteuses parmi les rayons. Elle n'eût pas été dans la mémoire des hommes la Pucelle d'Orléans. Elle avait dit, en partant, en parlant de la délivrance d'Orléans et du sacre de Reims, « C'est pour cela que je suis né. » Ces deux choses accomplies, sa sainteté était en péril. Guerre, sainteté, deux mots contradictoires. Il semble que la sainteté soit tout l'opposé de la guerre, qu'elle soit plutôt l'amour et la paix. Quel jeune courage se mêlera aux batailles sans partager l'ivresse sanguinaire de la lutte et de la victoire. Elle disait à son départ qu'elle ne voulait se servir de son épée pour tuer personne. Plus tard, elle parle avec plaisir de l'épée qu'elle portait à Compiègne. « Excellente, dit-elle, pour frapper d'estoc et de taille. » N'y a-t-il pas là l'indice d'un changement? La sainte devenait un capitaine. Le duc d'Alençon dit qu'elle avait une singulière aptitude pour l'arme moderne, l'arme meurtrière, celle de l'artillerie. Chef de soldats indisciplinables, sans cesse affligés, blessés de leur désordre, elle devenait rude et colérique, au moins pour les réprimer. Elle était surtout impitoyable pour les femmes de mauvaise vie qu'ils traînaient après eux. Un jour, elle frappa de l'épée de Sainte-Catherine, du plat de l'épée seulement, une de ces malheureuses. Mais la Virgine à l'épée ne soutint pas le contact. Elle se brisa et ne se laissa refermer et ranger jamais. Peu de temps avant d'être prise, elle avait pris elle-même un partisan bourguignon, Franquet d'Arras, un brigand exécré dans tout le Nord. Le bailli royal le réclama pour le pendre. Elle le refusa d'abord, pensant l'échanger. Puis elle se décida à le livrer à la justice. Il méritait 100 fois la corde. Néanmoins, d'avoir livré un prisonnier, consenti à la mort d'un homme, cela dut altérer même aux yeux des siens son caractère de sainteté. Malheureuse condition d'une telle âme tombée dans les réalités de ce monde. Elle devait chaque jour perdre quelque chose de soi. Ce n'est pas impunément qu'on devient tout à coup riche, noble, honoré, l'égal des seigneurs et des princes. Ce beau costume, ces lettres de noblesse, ces grâces du roi, tout cela aurait sans doute à la longue altéré sa simplicité héroïque. Elle avait obtenu pour son village l'exemption de la taille, et le roi avait donné à l'un de ses frères la prévôté de vos couleurs. Mais le plus grand péril pour la sainte, c'était sa sainteté même, les respects du peuple, ses adorations. À Lagny, on la pria de ressusciter un enfant. Le comte d'Armagnac lui écrivit pour lui demander de décider lequel des papes il fallait suivre. Si l'on s'en rapportait à sa réponse, peut-être falsifiée, elle aurait promis de décider à la fin de la guerre, se fiant à ses voix intérieures pour juger l'autorité elle-même. Et pourtant, ce n'était pas orgueil. Elle ne se donna jamais pour sainte. Elle avoue souvent qu'elle ignorait l'avenir. On lui demanda la veille d'une bataille si le roi la gagnerait. Mais elle dit qu'elle n'en savait rien. À Bourges, des femmes la priant de toucher des croix et des chapelets, elle se mit à rire et dit à la dame Marguerite chez qui elle logeait « Mais touchez-les vous-même, ils seront tout aussi bons. » C'était, nous l'avons dit, la singulière originalité de cette fille, le bon sens dans l'exaltation. Ce fut aussi, comme on verra, ce qui rendit ses juges implacables. Les scolastiques, les raisonneurs qui la haïssaient comme inspirés, furent d'autant plus cruels pour elle qu'ils ne purent la mépriser comme folle, et que souvent elle fit taire leur raisonnement devant une raison plus haute. Il n'était pas difficile de prévoir qu'elle périrait. Elle s'en doutait bien elle-même. Dès le commencement, elle avait dit « Il me faut employer, vous ne durerez qu'un an ou guère plus. » Plusieurs fois, s'adressant à son chapelain, frère Pasquerel, elle répéta « S'il faut que je meure bientôt, dites de ma part au roi, notre Seigneur, qu'il fonde des chapelles où l'on prie pour le salut de ceux qui seront morts, pour la défense du royaume. » Ses parents lui ayant demandé, quand ils la revirent à Reims, si elle n'avait donc peur de rien. « Je ne crains rien, dit-elle, que la trahison. » Souvent, à l'approche du soir, quand elle était en campagne, s'il se trouvait là quelque église, surtout de moines mendiants, elle y entrait volontiers et se mêlait avec les petits-enfants qu'on préparait à la communion. Si l'on en croit une ancienne chronique, le jour même qu'elle devait être prise, elle alla communier à l'église Saint-Jacques de Compiègne. Elle s'appuya tristement contre un des piliers et dit aux bonnes gens et aux enfants qui étaient là en grand nombre « Mes bons amis et mes chers enfants, je vous le dis avec assurance, il y a un homme qui m'a vendu. Je suis trahi et bientôt je serai livré à la mort. Priez Dieu pour moi, je vous supplie, car je ne pourrai plus servir mon roi, ni le noble royaume de France. Il est probable que la pucelle fût marchandée, achetée, comme on venait d'acheter Soissons. Les Anglais en auraient donné tout l'or du monde, dans un moment si critique, lorsque leur jeune roi débarquait en France. Mais les Bourguignons voulaient la voir, et ils l'eurent. C'était l'intérêt non seulement du duc, du parti bourguignon en général, mais directement celui de Jean de Ligny, qui s'empressa d'acheter la prisonnière. Que la pucelle fût tombée entre les mains d'un noble seigneur de la maison de Luxembourg, d'un vassal du chevaleresque duc de Bourgogne, du bon duc, comme on disait, c'était une grande épreuve pour la chevalerie du temps. Prisonnière de guerre, fille, si jeune fille, vierge surtout, parmi de loyaux chevaliers, qu'avait-elle à craindre? On ne parlait que de chevalerie, de protection des dames et damoiselles affligées. Le maréchal Bourricot venait de fonder un ordre qui n'avait pas d'autre objet. D'autre part, le culte de la Vierge, toujours en progrès dans le Moyen-Âge, étant devenu la religion dominante, la virginité semblait devoir être une sauvegarde inviolable. Pour expliquer ce qui va suivre, il faut faire connaître le désaccord singulier qui existait alors entre les idées et les mœurs. Il faut, quelque choquant que puisse être le contraste, placer en regard du trop sublime idéal, en face de la pucelle, les basses réalités de l'époque. Il faut, j'en demande pardon à la chaste fille qui fait le sujet de ce récit, il faut descendre au fond de ce monde de convoitise et de concupiscence. Si nous ne le connaissions pas tel qu'il fut, nous ne pourrions comprendre comment les chevaliers livrèrent celle qui semblait la chevalerie vivante, comment, sous ce règne de la Vierge apparut pour être méconnue si cruellement. La religion de ce temps-là, c'est moins la Vierge que la femme. La chevalerie, c'est celle du petit Jean de Saint-Tré. Seulement, le roman est plus chaste que l'histoire. Les princes donnent l'exemple. Charles VII reçoit Agnès en présent de la mère de sa femme, de la vieille reine de Sicile. Mère, femme, maîtresse, il les mène avec lui, tout le long de la Loire, en douce intelligence. Les Anglais, plus sérieux, ne veulent d'amour que dans le mariage. Gloucester épouse Jacqueline, parmi les dames de Jacqueline, il en remarque une belle et spirituelle, il l'épouse aussi. Mais la France, mais l'Angleterre en cela comme en tout, le cède de beaucoup à la Flandre, au comte de Flandre, au grand-duc de Bourgogne. La légende expressive des Pays-Bas est celle de la fameuse comtesse qui mit au monde 365 enfants. Les princes du pays, sans aller jusque-là, semblent du moins essayer d'approcher. Un comte de Clèves a 63 bâtards. Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, officie pontificalement, avec ses 36 bâtards et fils de bâtards qui le servent à l'autel. Philippe le Bon n'eut que 16 bâtards, mais il n'eut pas moins de 27 femmes, 3 légitimes et 24 maîtresses. Dans ces tristes années de 1429 et 1430, pendant cette tragédie de la Pucelle, il était tout entier à la joyeuse affaire de son troisième mariage. Cette fois, il épousait une infante de Portugal, anglaise par sa mère, Philippa de Lancaster. Aussi les Anglais eurent beau lui demander le commandement de Paris, ils ne purent le retenir. Il avait hâte de laisser ce pays de famine, de retourner en Flandre et d'y recevoir sa jeune épousée. Les actes, les cérémonies, les fêtes, célébrées, interrompues, reprises, remplirent des mois entiers. À Bruges surtout, il y eut des galas inouïs. De fabuleuses réjouissances, des prodigalités insensées à ruiner tous les seigneurs, et les bourgeois les éclipsaient. Les 17 nations qui avaient leur comptoir à Bruges y étalèrent les richesses du monde. Les rues étaient tendues de beaux et de tapis de Flandre, et pendant 8 jours et 8 nuits coulaient les 20 flots, les meilleurs. Un lion de pierre versait le vin du Rhin, un cerf celui de Beaune, une licorne aux heures des repas lançait l'eau de rose et la malvoisie. Mais la splendeur de la fête flamande, c'était les Flamandes, les triomphantes beautés de Bruges, telles que Rubens les a peintes dans sa Madeleine de la descente de croix. La Portugaise ne dut pas prendre plaisir à voir ses nouvelles sujettes. Déjà l'Espagnol, Jeanne de Navarre, s'était dépité en les voyant, et avait dit, malgré elle, « Je ne vois ici que des reines. » Le jour de son mariage, 10 janvier 1430, Philippe le Bon institua l'ordre de la Toison d'Or, conquise par Jason, et il prit la conjugale et rassurante devise « Autre n'aurait ». La nouvelle épouse s'y fia-t-elle? Cela est douteux. Cette toison de Jason ou de Gédéon, comme l'Église se hâta de la baptiser, était après tout la toison d'or. Elle rappelait ses flots dorés et ses ruisselantes chevelures d'or que Van Eyck, le grand peintre de Philippe le Bon, jette amoureusement sur les épaules de ses saintes. Tout le monde vit dans l'ordre nouveau le triomphe de la beauté blonde, de la beauté jeune, florissante du Nord en dépit des sombres beautés du Midi. Il semblait que le prince flamand, consolant les Flamandes, leur adressait ce mot à double entente « autre n'aurait ». Sous ces formes chevaleresques, gauchement imitées des romans, l'histoire de la Flandre en ce temps n'en est pas moins comme une fougueuse kermesse, joyeuse et brutale. Sous prétexte de tournois, de pas d'armes, de banquets de la table ronde, ce ne sont que galanteries, amours faciles et vulgaires, interminables bombances. La vraie devise de l'époque est celle que le sire de Ternon ose apprendre aux joues d'Arras, que j'ai de mes désirs assouvissants et jamais d'autres biens. Ce qui pouvait surprendre, c'est que parmi les fêtes folles, les magnificences ruineuses, les affaires du comte de Flandre semblaient n'en aller que mieux. Il avait beau donner, perdre, jeter, il lui en venait toujours davantage. Il allait grossissant et s'arrondissant de la ruine générale. Il n'y eut d'obstacle qu'en Hollande, mais il acquit sans grand-peine des positions dominantes de la Somme et de la Meuse, Namur, Péronne. Les Anglais, outre Péronne, lui mirent entre les mains Bar-sur-Seine, Auxerre, Meaux, les avenues de Paris, enfin Paris même. Bonheur sur bonheur. La fortune allait le charge, Jean est le surchargeant. Il n'avait pas le temps de respirer. Elle fit tomber au pouvoir d'un de ses vassaux, la Pucelle, ce précieux gage que les Anglais auraient acheté à tout prix. Et au même moment, sa situation se compliquant d'un nouveau bonheur, la succession du Brabant s'ouvrit. Mais il ne pouvait la recueillir s'il ne s'assurait de l'amitié des Anglais. Le duc de Brabant parlait de se remarier, de se faire des héritiers. Il mourut à point pour le duc de Bourgogne. Celui-ci avait à peu près tout ce qui entoure le Brabant, je veux dire la Flandre, le Hainaut, la Hollande, Namur et le Luxembourg. Il lui manquait la province centrale, la riche Louvain, la dominante Bruxelles. La tentation était forte. Aussi ne fit-il aucune attention aux droits de sa tante, de laquelle pourtant il tenait les siens. Il immola même les droits de ses pupilles, son propre honneur, sa probité de tuteur. Il mit la main sur le Brabant. Pour le garder et pour terminer les affaires de Hollande et de Luxembourg, pour repousser les Liégeois qui venaient assiéger Namur, il fallait rester bien avec les Anglais, c'est-à-dire livrer la Pucelle. Philippe le Bon était un bon homme, selon les idées vulgaires, tendre de cœur, surtout aux femmes, bon fils, bon père, pleurant volontiers. Il pleura les morts d'Azincourt. Mais sa ligue avec les Anglais fit plus de morts qu'Azincourt. Il versa des torrents de larmes sur la mort de son père, puis pour le venger, des torrents de sang. Sensibilité, sensualité, ces deux choses vont souvent ensemble. Mais la sensualité, la concupiscence n'en sont pas moins cruelles dans l'occasion. Que l'objet désiré recule, que la concupiscence la voit fuir et se dérober à ses brises, alors elle tourne à la furie aveugle. Malheur à ce qui fait obstacle. L'école de Rubens, dans ses bacchanales païennes, mêle volontiers des tigres aux satyres. Lust hard by hate. Celui qui tenait la Pucelle entre ses mains, Jean de Ligny, vassal du duc de Bourgogne, se trouvait justement dans la même situation que son suzerain. Il était comme lui dans un moment de cupidité et d'extrême tentation. Il appartenait à la glorieuse maison de Luxembourg. L'honneur d'être parent de l'empereur Henri VII et du roi Jean de Bohême valait bien qu'on le ménageât. Mais Jean de Ligny était pauvre. Il était cadet de cadet. Il avait eu l'industrie de se faire nommer seul héritier par sa tante, la riche dame de Ligny et de Saint-Paul. Cette donation, fort attaquable, allait lui être disputée par son frère aîné. Dans cette attente, Jean était le docile et tremblant serviteur du duc de Bourgogne, des Anglais, de tout le monde. Les Anglais le pressaient de leur livrer la prisonnière. Ils auraient fort bien pu la prendre dans la tour de Beaulieu en Picardie où ils l'avaient déposée. D'autre part, s'ils la laissaient prendre, ils se perdaient auprès du duc de Bourgogne, son suzerain, son juge dans l'affaire de la succession, et qui par conséquent pouvait le ruiner d'un seul mot. Provisoirement, il l'envoya à son château de Beaurevoir, près de Cambrai, sur terre d'Empire. Les Anglais, exaspérés de haine et d'humiliation, pressaient, menaçaient. Leur rage était telle contre la Pucelle que, pour en avoir dit du bien, une femme fut brûlée vive. Si la Pucelle n'était elle-même jugée et brûlée comme sorcière, si ses victoires n'étaient rapportées aux démons, elle restait des miracles dans l'opinion du peuple, des œuvres de Dieu. Alors que Dieu était contre les Anglais, ils avaient été bien et loyeusement battus. Donc leur cause était celle du diable. Dans les idées du temps, il n'y avait pas de milieu. Cette conclusion intolérable pour l'orgueil anglais n'était bien plus encore pour un gouvernement d'évêques comme celui de l'Angleterre, pour le cardinal qui dirigeait tout. Winchester avait pris les choses en main dans un état presque désespéré. Gloucester étant annulé en Angleterre, Bedford en France, il se trouvait seul. Il avait cru tout entraîner en amenant le jeune roi à Calais, et les Anglais ne bougeaient pas. Il avait essayé de les piquer d'honneur en lançant une ordonnance contre ceux qui ont peur des enchantements de la Pucelle. Cela n'eut aucun effet. Le roi restait à Calais, comme un vaisseau échoué. Winchester devenait éminemment ridicule. Après avoir réduit la croisade de Terre Sainte à celle de Bohême, il s'en était tenu à la croisade de Paris. Le belliqueux prélat, qui s'était fait fort d'officier en vainqueur à Notre-Dame et d'y sacrer son pupille, trouvait tous les chemins fermés. De Compiègne, l'ennemi lui barrait la route de Picardie, de Louviers, celle de Normandie. Cependant, la guerre traînait, l'argent s'écoulait, la croisade se perdait en fumée. Le diable apparemment s'en mêlait. Le cardinal ne pouvait se tirer d'affaire qu'en faisant le procès du malin, en brûlant cette diabolique Pucelle. Il fallait l'avoir, il fallait l'attirer des mains des Bourguignons. Elle avait été prise le 23 mai, et le 26, un messager part de Rouen, au nom du vicaire de l'Inquisition, pour sommer le duc de Bourgogne et Jean de Ligny de livrer cette femme suspecte de sorcellerie. L'Inquisition n'avait pas grande force en France. Son vicaire était un moine fort peureux, un dominicain, et sans doute comme les autres mendiants, favorable à la Pucelle. Mais il était à Rouen sous la terreur du tout-puissant cardinal qui lui tenait l'épée dans les reins. Le cardinal venait de nommer capitaine de Rouen un homme d'exécution, un homme à lui, Lord Warwick, gouverneur d'Henri. Warwick avait deux charges, fort diverses à coup sûr, mais toutes deux de haute confiance. La garde du roi et celle de l'ennemi du roi, l'éducation de l'un, la surveillance du procès de l'autre. La lettre du moine était une pièce de peu de poids. On fit décrire en même temps l'université. Il semblait difficile que les universitaires aidassent de bon cœur un procès d'inquisition papale au moment où ils allaient guerroyer à Bâle contre le pape pour l'épiscopat. Winchester lui-même, chef de l'épiscopat anglais, devait préférer un jugement d'évêque ou, s'il pouvait faire agir ensemble, évêque et inquisiteur. Or, il avait justement à sa suite et parmi ses gens un évêque très propre à la chose, un évêque mendiant qui vivait à sa table et qui assurément jurerait ou jugerait tant qu'on en aurait besoin. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, n'était pas un homme sans mérite. Né à Reims, tout près du pays de Gerson, c'était un docteur fort influent de l'université, un ami de Clément Gys, qui nous assure qu'il était bon et bienfaisant. Cette bonté ne l'empêcha pas d'être un des plus violents dans le violent parti cabochien. Comme tel, il fut chassé de Paris en 1413. Il y rentra avec le duc de Bourgogne, devint évêque de Beauvais, et sous la domination anglaise, il fut élu par l'université conservateur de ses privilèges. Mais l'invasion de la France du Nord par Charles VII en 1429 devint funeste à Cochon. Il voulut retenir Beauvais dans le parti anglais et fut chassé par les habitants. Il ne s'amusa pas à Paris, près du triste Bedford, qui ne pouvait payer le zèle. Alors il alla où étaient la richesse et la puissance, en Angleterre, près du cardinal Winchester. Il se fit anglais. Il parla anglais. Winchester sentit tout le parti qu'il pouvait tirer d'un tel homme. Il se l'attacha en faisant pour lui autant et plus qu'il n'aurait pu jamais espérer. L'archevêque de Rouen venait d'être transféré ailleurs. Il le recommanda au pape pour ce grand siège. Mais ni le pape ni le chapitre ne voulaient de Cochon. Rouen, alors en guerre avec l'université de Paris, ne pouvait prendre pour archevêque un homme de cette université. Tout fut suspendu. Cochon, en présence de cette magnifique proie, resta bouche béante, espérant toujours que l'invincible cardinal écarterait les obstacles, plein de dévotion en lui et n'ayant plus d'autre dieu. Il se trouvait fort à point que la pucelle avait été prise sur la limite du diocèse de Cochon, non pas, il est vrai, dans le diocèse même, mais on espéra faire croire qu'il en était ainsi. Cochon écrivit donc, comme juge ordinaire, au roi d'Angleterre pour réclamer ce procès. Et le 12 juin, une lettre royale fit savoir à l'université que l'évêque et l'inquisiteur jugeraient ensemble et concurremment. Les procédures de l'inquisition n'étaient pas les mêmes que celles des tribunaux ordinaires de l'Église. Il n'y eut pourtant aucune objection. Les deux justices voulant bien agir ainsi de connivence, une seule difficulté restait. L'inculpé était toujours entre les mains des Bourguignons. L'université se mit en avant. Elle écrivit de nouveau au duc de Bourgogne, à Jean de Ligny. Cochon, dans son zèle, se faisant l'agent des Anglais, leur courrier, se chargea de porter lui-même la lettre et la remit aux deux ducs. En même temps, il leur fit une sommation comme évêque, à cette fin de lui remettre une prisonnière sur laquelle il avait juridiction. Et dans cet acte étrange, il passe du rôle de juge à celui de négociateur et fait des offres d'argent. Quoique cette femme ne puisse être considérée comme prisonnière de guerre, le roi d'Angleterre donnera 200 ou 300 livres de rente au bâtard de Vendôme et à ceux qui la retiennent la somme de 6 000 livres. Puis, vers la fin de la lettre, il pousse jusqu'à 10 000 francs, mais il fait valoir cette offre. Autant, dit-il, qu'on donnerait pour un roi ou prince selon la coutume de France. Les Anglais ne s'en fiaient pas tellement aux démarches de l'université et de Cochon qu'ils n'employassent des moyens plus énergiques. Le jour même où Cochon présenta sa sommation, ou le lendemain, le Conseil d'Angleterre interdit aux marchands anglais les marchés des Pays-Bas, notamment celui d'Anvers, leur défendant d'y acheter des toiles et les autres objets pour lesquels ils échangeaient leur laine. C'était frapper le duc de Bourgogne, comte de Flandre, par un endroit bien sensible, par les deux grandes industries flamandes, la toile et le drap. Les Anglais n'allaient plus acheter l'une et cessaient de fournir la matière de l'autre. Tandis que les Anglais agissaient si vivement pour perdre la pucelle, Charles VII agissait-il pour la sauver? En rien, ce semble. Il avait pourtant des prisonniers entre ses mains, il pouvait la protéger en menaçant de représailles. Récemment encore, il avait négocié par l'entremise de son chancelier, l'archevêque de Reims. Mais cet archevêque et les autres politiques n'avaient jamais été bien favorables à la pucelle. Le parti d'Anjou-Lorraine, la vieille reine de Sicile qui l'avait si bien accueillie, ne pouvait agir pour elle en ce moment près du duc de Bourgogne. Le duc de Lorraine allait mourir, on se disputait d'avance sa succession, et Philippe le Bon soutenait un compétiteur de René d'Anjou, gendre et héritier du duc de Lorraine. Ainsi, de toutes parts, ce monde d'intérêt et de convoitise se trouvait contraire à la pucelle, ou tout au moins indifférent. Le bon Charles VII ne fit rien pour elle. Le bon duc Philippe la livra, et la maison d'Anjou voulait la Lorraine, le duc de Bourgogne voulait le Brabant, il voulait surtout la continuation du commerce flamand avec l'Angleterre. Les petits aussi avaient leurs intérêts. Jean de Ligny attendait la succession de Saint-Paul, Cochon l'archevêché de Rouen. En vain, la femme de Jean de Ligny se jeta à ses pieds. Elle le supplia en vain de ne pas se déshonorer. Il n'était pas libre. Il avait déjà reçu de l'argent anglais. Il la livra. Non, il est vrai, aux Anglais directement, mais au duc de Bourgogne. Cette famille de Ligny et de Saint-Paul, avec ses souvenirs de grandeur et ses ambitions effrénées, devait poursuivre la fortune jusqu'au bout, jusqu'à la grève. Celui qui livra la pucelle semble avoir senti sa misère. Il fit peindre sur ses armes un chameau succombant sous le faix, avec la triste devise inconnue aux hommes de cœur : « Nul n'est tenu à l'impossible ».